Eh bien alors, on continue dans la joie et la bonne humeur, et on aborde maintenant un autre sujet.
Bon, très bien. Donc on va aborder l'installation de la télécommande, alors qui est d'un... On va dire qui est...
Il y a quand même quelque chose de frustrant. Hein. On a une superbe boîte, on a trouvé les chaînes, et comment est-ce qu'on change les chaînes ? Au clavier ?
Clavier,
ah non,
oui,
non,
c'est
pas possible.
Enfin, c'est moins convivial,
c'est
on va dire.
C'est pas très convivial. Et alors, il y a une particularité, c'est que dit notre épouse ? Elle est contente. Elle aime utiliser le clavier pour regarder la télé.
Oui, c'est...
Le Wife Acceptance Factor. Donc, évidemment, c'est pas possible. On va résoudre ce problème tout de suite. On va attaquer la façon dont on peut installer une télécommande en bonne et due forme sur un ordinateur. Et il faut dire une chose, ça n'était pas prévu. Hein.
Ah.
Non, mais installer une télécommande sur un ordinateur, c'est pas quelque chose
tout
de complètement
fait.
Naturel.
Tout à fait.
Et peut-être détromper un certain nombre de personnes qui, hélas, ont l'expérience que, comme l'ordinateur possède un capteur infrarouge, on va pouvoir tirer profit de ce capteur infrarouge pour recevoir les signaux de la télécommande. Or, malheureusement, ce capteur infrarouge est un capteur à la norme IRDA, une norme très spécifique au monde de l'informatique, qui est là pour faire fonctionner, éventuellement, les communications entre un portable et l'ordinateur. C'était très en vogue avant que Bluetooth ne se développe. Et c'est pas seulement une question de pilote logiciel, c'est vraiment une question de hardware et la façon dont le hardware est designé. Ces capteurs IRDA ne sont pas faits pour récupérer dans de bonnes conditions le code de nos télécommandes grand public, et notamment généralement le code RC5, conçu par Philips il y a une trentaine d'années. Et on est obligé de fabriquer notre propre récepteur infrarouge pour sortir de l'ornière. Donc c'est ce qu'on voit maintenant.
Okay. Je vais te laisser la main. Je reviendrai sans doute plus tard sur le. Enfin, je reviendrai sans doute tout à l'heure sur un peu le fonctionnement de LIRC, le fonctionnement général.
Attaque avec ça, bah, bonne idée. Je pense qu'il y a un slide juste après celui-là. Celui avec le pingouin. Bah, voilà, encore un coup. Parfait. Donc là, pour ceux qui nous écoutent à distance, on est sur le slide portant où tu expliques finalement qu'il y a 3 ou 4 acteurs à mettre en œuvre.
Alors, j'ai pas l'habitude, je suis désolé. Donc oui. Donc je sais pas si c'est vraiment très visible comme ça. Je voulais agrandir en fait l'image, si c'est possible.
J'ai pas eu le temps de le préparer.
Ah d'accord. Bon, bah, c'est pas grave.
Désolé.
Donc je voulais juste dire quelques mots donc sur le fonctionnement en fait sous Linux de la gestion de la télécommande. Alors en fait conceptuellement c'est très simple. C'est très très simple. Après la mise en œuvre est peut-être pas toujours évidente, mais sinon tout est très simple. On a une télécommande, on a un récepteur. Alors, soit du commerce, soit qu'on va fabriquer nous-mêmes, qui va comprendre en tout cas les signaux de la télécommande.
Et peut-être c'est même plus modeste de dire qu'il va transformer en impulsion électrique les impulsions optiques. Parce que le récepteur lui-même ne comprend pas grand-chose.
Oui, c'est vrai. Donc, le récepteur, donc voilà... récupérer des codes donc sous forme électrique qui va transmettre donc à notre matériel donc par différents vecteurs je sais pas, ça peut être USB, ça peut être série, port série, enfin voilà. Et
C'est amusant de dire ça, parce que qu'est-ce que c'est l'USB si ce n'est un port série ?
Oui, c'est vrai.
Mais traditionnellement, on se retrouve avec ces deux schémas. Je vois que sur la boîte que tu as amenée en démonstration aux auditeurs de la cantine, tu as fait le choix d'utiliser un récepteur infrarouge branché sur le port USB. Ce que l'on va démontrer un petit peu plus tard, c'est la possibilité de créer soi-même un branchement extrêmement simple en électronique amateur sur le port RS-232. On va utiliser ça, RS-232, pour ne pas utiliser les termes trop génériques. Je crois que c'est les deux grands modes de branchement qui existent.
Oui, effectivement. Donc,
bien souvent de s'apprendre sur les ordinateurs.
Tout à fait,
maintenant.
Et Claude, notre censeur derrière, nous dit à juste titre que pour les configurations récentes et donc les cartes mères d'aujourd'hui, le montage à base de port RS-232 appartient au passé, étant donné que c'est une interface que l'on retrouve de moins en moins.
Il y a aussi les prises sur la carte tuner. Là, j'ai l'impression que le récepteur est branché sur la carte tuner. En
fait. Voilà, exactement. Donc sur la carte ou alors via USB directement dans le boîtier pour certains boîtiers multimédia qui le supportent, voilà, ou via USB. Donc pour comprendre ces signaux, les transformer en code compréhensible par l'informatique, donc on a un pilote au niveau de Linux, au niveau du noyau Linux, on a un pilote qui lui ce pilote va fournir certaines informations qui vont être récupérées par un logiciel qui se nomme NIRC, donc qui va comprendre les informations fournies par ces pilotes, ces informations, ces codes de télécommande, et qui va pouvoir transformer ces informations en code peut-être plus informatique. En token interprétable par voilà des labels qui vont ensuite pouvoir être utilisés par les applications qui comprennent donc le protocole de LIRC pour définir des actions en fonction du label obtenu. Donc on a plusieurs transformations à partir de l'optique jusqu'à nos applications. Donc voilà, c'est toute cette chaîne en fait qu'il va falloir initialiser pour reconnaître la télécommande. Alors je voulais juste mettre quelques mots sur LIRC, parce que en fait jusqu'à tout récemment. LIRC reste un composant externe au noyau Linux, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien au niveau du noyau qu'on va récupérer les informations fournies par le matériel, bon, ce qui est normal.
Si ce n'est pas Stéphane qui pose la question ennuyeuse, alors là je vais jouer les messieurs loyal, LIRC, L-I-R-C, ça veut dire quoi?
Linux Infra Red. Remote Control.
Ouais, Linux
Infrared
Remote Control. Ah, évidemment, moi je triche, j'ai mon browser sous les yeux et j'ai non cherché avant de vous poser la question.
Donc voilà, le contrôle de télécommande infrarouge pour Linux. Et donc on peut se poser une question, c'est mais comment se fait-il que... Comment se fait-il que les pilotes pour ces télécommandes infrarouges ne soient pas présentes dans le noyau Linux? Pourquoi, alors que c'est une application assez ancienne, pourquoi on se retrouve encore dans la situation où c'est LIRC qui doit installer ses composants dans le noyau? Alors, je ne vais pas répondre à la question, je vais dire que ce n'est plus la peine de se poser la question, puisque tout récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours, il y a eu deux événements, en tout cas, concernant les télécommandes sous Linux. Enfin, il y a eu des événements. En tout cas, il y a deux événements qui vont arriver, dont un est arrivé. Le premier, c'est que dans le prochain noyau, pour ceux qui suivent le 2636, la majorité, si ce n'est la totalité des pilotes de LIRC seront intégrés au noyau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, puisque ça va éviter c'est une très bonne nouvelle, puisque installer des noyaux externes des pilotes externes, ouais, à son noyau, c'est pas forcément une chose évidente, c'est pas toujours forcément évident. Donc là, ils seront intégrés au noyau, ils seront gérés, maintenus dans le noyau, ce qui est un gros avantage. Et une autre bonne nouvelle, on parlait tout à l'heure de Jarrod Wilson. Et un des problèmes pour intégrer en fait les pilotes au noyau, bah, c'était d'avoir un mainteneur comment dire, un mainteneur qui est le temps matériel et peut-être les appuis pour intégrer tout ça. Et
donc, éventuellement la compétence.
Oui, mais...
Et tu es en train d'annoncer à la galerie que M. Wilson s'y colle.
Eh bien, voilà, en fait, depuis la 087 qui est sortie il y a quelques jours, donc qui n'est pas inclus dans mon boîtier, mais moi j'avais une version prêt, Jared Wilson, en fait, reprend la maintenance de l'IRC. Et donc ça s'accompagne de la sortie... de l'intégration des pilotes dans le noyau Linux pour la prochaine version.
Avec donc, l'aide de quelqu'un de compétences reconnues.
Voilà, donc, puisque un des soucis en général lorsqu'on veut intégrer quelque chose dans le noyau Linux, c'est d'avoir quelque chose de bien stable, de bien éprouvé, etc. Donc voilà, là maintenant c'est le cas. Et ce qui va faciliter, je pense, beaucoup d'installations dorénavant. On avait eu la même situation avec les pilotes DVB. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu le cas, et ça s'est beaucoup amélioré de la même façon lorsque tous ces pilotes ont été intégrés au noyau. Et on a vu que ça a vraiment facilité les choses.
En termes simples, pour l'utilisateur qui nous écoute, ça veut dire lorsqu'on branche le matériel, voilà. Si c'est intégré dans le noyau, c'est plug and play.
Voilà,
ça se détecte tout seul, c'est reconnu, c'est pris en charge, alors que sinon, fatalement, il faut passer par téléchargement de source, compilation.
Voilà.
Je te passe la main. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Donc, ce que nous allons regarder maintenant, c'est la façon dont finalement, dans un monde qui n'est pas idéal, dans un monde qui nécessite encore de mettre un peu les mains dans le cambouis, nous pouvons faire plaisir à madame et installer une télécommande en bonne et due forme, une télécommande avec le nombre de boutons requis pour accéder aux différentes fonctions de Miss TV, et une télécommande qui marche avec une grande fiabilité. On attaque par ce premier transparent, qui est un exemple de ce que matériellement on peut faire soi-même en se donnant vraiment un petit peu de plaisir à l'ouvrage. Ici à la cantine, on a une très belle salle pour la conférence que nous utilisons en ce moment. Derrière l'écran sur lequel fonctionne le rétroprojecteur, il y a une autre salle qui peut éventuellement permettre à des applications hardware de trouver une place, et on peut venir avec son fer à souder. Et peut-être est-ce que l'occasion, on aura l'occasion de faire une conférence atelier montage de récepteurs de télécommande pour faire plaisir à madame. Regardez ces quelques photos. Vous savez, on a toujours la coquetterie de présenter un petit peu ce dont on est fier. Donc, voilà comment ça peut, ressembler un montage amateur dans un PC du commerce. Quelque chose qui, au final, peut être vraiment propre, efficace. Que voit-on ici? Le capteur infrarouge, qui est un simple composant électronique, au lieu d'être monté directement sur la carte de composants électroniques, est déporté au moyen de trois petits fils, un fil par patte que comporte ce capteur infrarouge, c'est un petit composant qui comporte donc trois pattes, et monté en façade du PC. Donc on se retrouve avec un capteur qui est à la fois dissimulé par la façade, mais en même temps monté en façade pour recevoir les signaux infrarouges, et avec une carte de conversion entre les signaux TTL 5 volts utilisés par le capteur infrarouge et les signaux RS232 12 volts attendus par le connecteur du même nom sur la carte mère, une carte de mise à niveau des signaux, qui, elle, peut être montée à l'intérieur du PC. Voilà ce que voulaient symboliser ces deux petites photos, très simples. Si vous avez un coup d'œil sur cette carte électronique, vous verrez que c'est vraiment de l'électronique amateur accessible à n'importe qui s'intéresse à réaliser un tout petit peu par lui-même quelque chose, et que, toujours dans cette démarche de construire par soi-même un récepteur, décodeur et enregistreur numérique, on peut avoir le plaisir de fabriquer par soi-même ce tout petit bout d'électronique à ajouter dans le boîtier du PC qui va réussir l'adaptation, qui va réussir en fait à doter, à ajouter à votre PC cette fonctionnalité infrarouge dont il était dépourvu au début. Rappelons-le, hein, il ne s'agit pas d'une carte de réception infrarouge IRDA, mais bien d'une carte de réception infrarouge pour signaux de télécommande traditionnels. RC5 entre autres, mais ça n'est pas limité au RC5. Le code RC5 est simplement une façon d'encoder les bits sur la modulation infrarouge. Et on pourrait utiliser des télécommandes qui ne sont pas RC5. RC5 est un code développé par Philippe il y a bien longtemps, au début des télécommandes, quand on a abandonné les télécommandes à ultrason et qu'on a commencé à utiliser des télécommandes à infrarouge, ce qui renvoie vraiment à notre jeunesse. Et la façon dont les utilitaires dont nous allons parler dans un instant sont capables d'enregistrer le code infrarouge reçu est complètement agnostique quant au mode de codage sur le signal infrarouge qui a été retenu. Donc on va, et Claude, tu as parfaitement raison, on pourra exploiter des télécommandes RC5, mais d'autres également. La principale particularité et exigence, c'est que la fréquence de modulation du signal infrarouge soit pas trop loin de 38 kHz. Alors ça peut paraître curieux qu'on parle de fréquence quand il s'agit d'un signal infrarouge. En fait, il faut tout simplement comprendre que les bits d'information en infrarouge ne sont pas simplement transmis en allumant et en éteignant la diode, ce qui poserait des problèmes redoutables de temps de réaction de la diode et exigerait d'utiliser des diodes infrarouges extrêmement coûteuses. On utilise tout simplement une diode allumée en permanence et sur laquelle il y a une modulation, un petit peu comme on utilise une modulation sur une fréquence pour transmettre une station radio. Et bien là, on module le signal lumineux de la diode infrarouge. Et évidemment, selon les fabricants, on peut moduler très traditionnellement à 36 kHz, à 38 kHz ou encore à 40 kHz. C'est pour ça que, traditionnellement également, le récepteur infrarouge que je vous montrais dans le transparent précédent, donc cette petite partie-là, la petite partie noire, on essayera de le choisir, si c'est possible, de le trouver dans le commerce, plutôt compatible avec une fréquence de réception 38 kHz, qui est en fait juste au milieu, qui est d'abord la fréquence de réception, la fréquence d'émission d'un bon nombre de télécommandes du commerce, mais également qui est au milieu du spectre de fréquence auquel on s'habitue généralement entre 36 et 40. Que se passe-t-il si la télécommande n'émet pas sur cette fréquence infrarouge ? Eh bien, c'est le cas des télécommandes Bang et Olufsen, marques qui aiment à se singulariser. Et bien, le signal ne sera tout simplement pas reçu. Le signal ne sera pas reçu, le capteur infrarouge ne sera pas capable de sentir les impulsions, tout simplement parce qu'elles ne seront pas dans le bon spectre de fréquence. Troisième élément, et nous abandonnerons les aspects matériels et électroniques des choses et nous reviendrons aux aspects logiciels. Alors, selon la sensibilité des uns, ils trouveront que nous sommes passés un peu rapidement sur ce qui fait la joie de bien des enfants qui découvrent l'électronique, c'est de pouvoir faire des montages tout simples. Et puis les autres, qui n'aiment pas beaucoup mettre les mains avec le fer à souder dans la résine et dans la soudure, seront très contents après ce slide de retourner à nos amusements avec les logiciels. Ce slide, ce transparent pour vous montrer, c'est un petit schéma d'implantation extrêmement rassurant, puisque vous voyez, il s'agit tout simplement de faire une correspondance électrique très simple entre les trois broches du récepteur infrarouge, la masse, le plus et le moins, et de l'autre, les transmissions de données, l'alimentation positive 5 volts et la masse. Et de l'autre côté, les trois broches correspondantes de la prise RS-232. Alors pourquoi voyez-vous finalement à peu près tous les composants de base de n'importe quel schéma électronique amateur sur ce schéma? On voit une résistance, on voit un condensateur, qu'on appelle également une capacité, on voit une diode et on voit un transistor. Alors que demander de plus ? C'est tout simplement parce que ce petit composant électronique qui va recevoir les signaux infrarouges, il faut l'alimenter. Et cette alimentation, on vient la récupérer directement du port RS-232, qui a eu la bonne idée. En fait, on détourne tout simplement la fonction de certaines de ces broches. Le port RS-232 qui signale que l'ordinateur est prêt à recevoir des données, par exemple. Et il le signale de quelle manière ? En appliquant une tension de 12 volts sur l'une de ces broches. Par conséquent, c'est cette tension qu'on utilise pour alimenter notre boîtier de réception infrarouge. Et évidemment, on ne peut pas l'alimenter directement en 12 volts alors qu'il attend 5 volts d'alimentation, d'où ce petit schéma qui vient faire, qui vient abaisser artificiellement la tension pour alimenter correctement le boîtier de réception infrarouge. Arrêtons là. Oui, Claude. Mais si tu veux bien prendre un micro, parce que je pense à l'enregistrement, je pense à ceux qui nous écoutent.
Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais j'imagine que ça veut dire qu'on a 5 bus qui vont faire des soudures, qui vont communiquer entre eux. Par exemple, ceux du haut, ça va communiquer entre eux. Et puis, ça va communiquer avec le 7, par exemple, la première ligne.
Exactement ça.
Hein, c'est ça. À droite, on a le port RS-232 avec les points 1, 7, 5. Alors, par contre, je m'interroge sur la zone de connexion de la diode infrarouge. C'est le IC2 qui est à l'autre extrémité.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui.
Et donc les trois...
C'est plus qu'une diode, hein, c'est un vrai récepteur équipé d'un tout petit amplificateur.
D'accord. Et donc les trois broches qui sont déportées, ce sont les trois qui sont à gauche.
Oui, absolument. Les trois broches utilisées par ce récepteur infrarouge et qui sont donc connectées au schéma, ce sont les trois qui sont à gauche, absolument, avec une broche sur laquelle sont transmises les données. Et qui rentre donc dans le port numéro 1 de l'interface RS-232, une broche sur laquelle l'alimentation électrique 5 volts est envoyée, et une broche sur laquelle la masse, c'est-à-dire le 0, la référence à 0 volts, est connectée.
D'accord. Et donc finalement, on pourrait ne pas faire le montage qu'on a vu sur la photo, en ayant un petit boîtier qui contiendrait tout l'ensemble qui est sur la partie centrale, majeure.
Oui, oui.
Le brancher sur le RS-232 d'un côté, oui. Et sur l'autre avec...
Absolument, absolument. C'était vraiment un choix d'avoir intégré ce petit montage à l'intérieur du boîtier, mais très très fréquemment, les gens préfèrent le laisser à l'extérieur, c'est plus facile, et le brancher, effectivement, à l'aide d'un petit câble qui peut mesurer 1 mètre ou 2, il n'y a pas besoin de plus, à la prise RS-232, et j'en profite pour...
Comme un transfo, finalement, ça se présente.
C'est bien vrai. Et j'en profite du reste pour vous montrer une réalisation concrète qui existe et très amusante. Le site internet d'ailleurs duquel est tiré ce petit schéma d'implantation. Il me faut juste un petit instant pour vous le montrer. Vous allez voir sur l'internet la façon dont cette personne a réussi à dissimuler son récepteur infrarouge à côté de son voilà, l'URL est indiquée ici en bas du transparent. Dissimuler le récepteur infrarouge sous une forme très originale à côté de son magnétoscope Miss TV. Voilà où est dissimulé le récepteur infrarouge. Donc Claude, ce que tu dis sur la possibilité, et même c'est souhaitable, de déporter le récepteur à l'extérieur branché par un petit câble au port RS-232, c'est tout à fait ça. Dans un TIE Fighter, c'est un hommage au film Star Wars. Donc nous continuons sur la partie désormais logicielle. Vous avez compris ce qui était possible de faire au niveau matériel. La partie logicielle, c'est... Jean-Michel a bien expliqué ce qui se passe en sous-jacent, qu'il va y avoir un daemon, LIRC-D, LIRC, Linux Infrared Remote Control, et D pour démon, qui va tourner en permanence et qui va écouter constamment les variations électriques sur le port RS-232. Ceci dit, insistons un petit peu sur ce transparent-ci pour, du point de vue de l'utilisateur, de quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner les applications? On a effectivement cette couche logicielle qui fonctionne, et ensuite, parce que c'est évident que si on utilise une première télécommande d'une marque A, les codes infrarouges ne seront pas les mêmes qu'une télécommande d'une marque B. Et comment dire à notre ordinateur que ce sont ces codes A, ou bien ce sont ces codes B, ou encore pire, une fois qu'on connaît les codes, comment dire à l'ordinateur, quand c'est ce code, voilà ce que tu dois faire. Ben, tout est résumé sur ce transparent. On utilise deux fichiers de configuration complémentaires et au contenu différent. À gauche, vous avez le fichier que traditionnellement on appelle lircd, lircd.conf. Ce fichier-là, on va voir dans un instant comment le fabriquer, ou éventuellement le trouver déjà tout fait pour les télécommandes connues du grand public. Ce fichier-là contient à l'intérieur les éléments numériques qui permettent au daemon LIRC, à LIRC-D, de décoder les impulsions. On a dit qu'il écoute en permanence les variations d'état électrique sur le port RS-232. C'est vrai également d'un module de réception infrarouge branché au port USB. Donc il écoute en permanence les variations électriques. Et comment les interpréter? Comment transformer un stream électrique en une valeur numérique identifiant correctement que l'on a pressé telle touche et non pas telle autre? C'est exactement le but de ce fichier lirkd.conf qui contient à l'intérieur toutes les informations qui permettent de décoder l'infrarouge reçu. Et à droite du transparent, cette fois-ci, nous nous intéressons à un autre fichier parfaitement complémentaire mais qui intervient à un autre niveau. Une fois qu'on sait que telle impulsion correspond à telle touche, identifiée par un numéro de série, entre guillemets, il est nécessaire de savoir, ok, mais avec cette touche, que fait-on maintenant? Quel ordre donne-t-elle? Et c'est exactement le but de ce second fichier qui s'appelle cette fois-ci lirkrc.txt par exemple, mais ce n'est pas indispensable, lirkrc, c'est de lier une touche infrarouge, une touche de la télécommande infrarouge, donc un label, à une action précise d'une application. Et l'on va regarder maintenant, un peu dans le détail, ces deux fichiers et comment les installer correctement sur votre MISBOX de façon à avoir quelque chose qui non seulement va être capable de décoder l'infrarouge, mais quelque chose qui va être capable de donner des ordres à MISTV et de le faire agir. Allons-y pour le transparent suivant. Alors, une petite aparté concernant la distribution spécialisée MISTV, l'INES.org, anciennement connue par beaucoup d'entre nous sous le nom de NOPPIX, puisqu'elle était basée sur la distribution légère toujours très difficile à prononcer, KNOPPIX, issu du projet Debian. Et KNOPPIX avait cette particularité d'être facile à remasteriser, c'est la raison pour laquelle le créateur dont nous parlions tout à l'heure, Cecil Watson, ce Californien, avait choisi cette distribution pour la personnaliser exclusivement pour MISTV, et qu'il a désormais switché, il est passé à une autre distribution, il est passé à Arch Linux, sur lequel il continue à développer son œuvre, et qui désormais donc s'appelle Linhes, L-I-N-H-E-S, linhes.org. Alors, si on regarde ce premier écran, on s'aperçoit que la particularité des heureux utilisateurs de Linhes, pour Linux Home Entertainment System, c'est d'avoir un certain nombre de choix préconfigurés dans l'interface graphique qui vont éviter toutes les tracasseries dont nous parlait Jean-Michel il y a un instant, à savoir la compilation des bons modules, des bons pilotes prévus par l'IRC, parce que précisément ils n'étaient pas intégrés dans le noyau Linux jusqu'à présent, et qui va nous éviter une foule de tracasseries. Toute cette partie, les mains dans le cambouis, dont raffole le geek averti et amateur de Linuxerie, est épargnée à l'utilisateur qui veut simplement utiliser sa MISBOX et accessoirement éviter les crises de nerfs des personnes non masculines du foyer. Toute cette partie est déjà pré-mâchée, le daemon est installé, les modules sont installés, tout est reconnu. Il suffit simplement, et c'est l'écran suivant, de préciser, sous l'interface graphique, aucune ligne de commande à utiliser, de préciser quel est le type d'interface et quel est le type de télécommande que l'on va souhaiter utiliser avec sa boîte. Alors sur l'écran d'exemple qui est donné là, vous voyez probablement que l'information la plus importante, c'est quel est le type de récepteur infrarouge. C'est un type de récepteur branché sur le port série RS-232. Quel est le numéro du port, parce qu'une carte mère, jusqu'à une certaine époque, en portait plusieurs. En l'occurrence, le port, c'est le port numéro 1, TTY-S0. Et enfin, troisième information de cet écran de configuration, quel est le type de la télécommande? Et en l'occurrence, c'est une télécommande très couramment livrée avec les équipements grand public, une télécommande de la marque Thomson, la télécommande RCT 311DA2. Ceci dit, on n'arrive pas à ce résultat complètement par hasard et de façon aussi intuitive que ça. L'exemple ici porte sur une télécommande qui, s'il n'est pas difficile de l'ajouter à sa mise box, malheureusement n'est pas reconnue à l'origine par cette distribution l'INES. Pas reconnue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'INES possède les éléments logiciels qui vont permettre la détection de l'infrarouge sur le port série, on l'a dit, l'IRC a été installé, mais ne possède pas les fichiers de configuration qui vont permettre de décoder les signaux infrarouges de cette télécommande en particulier, ainsi que les fichiers de configuration qui vont permettre de lier un code infrarouge à une action précise. Donc nous reparlons encore une fois des deux fichiers, l'IRC-D et l'IRC-RC. Alors c'est la raison pour laquelle dans le transparent précédent on indiquait que l'on a besoin, avant d'être capable sous l'interface graphique de l'INES, on a besoin d'être on a besoin de créer ces deux fichiers et de les mettre au bon endroit dans le répertoire de façon à permettre ensuite à l'interface graphique de nous permettre de sélectionner ces fichiers et de faire fonctionner Mist TV et ses associés avec cette télécommande. Allons-y. Comment obtenir un fichier qui soit capable de dire à l'IRC-D, donc le daemon, ce que peuvent bien signifier ces impulsions électriques ? Eh bien, on peut avoir la chance que le fichier soit déjà tout prêt. Et dans ce cas-là, c'est idéal. Il y a évidemment un certain nombre d'utilisateurs comme nous qui ont dû configurer pour leur télécommande à eux des fichiers de ce type et qui se sont dit, on utilise des logiciels libres, l'information est faite pour circuler. Une fois que je me suis donné la peine de créer ce fichier pour cette télécommande, il est probable que d'autres personnes de par le monde auront besoin d'utiliser la même télécommande. Je vais donc mettre à leur disposition, le fichier que j'ai créé. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons trouver sur le site internet l'IRC un certain nombre de ces fichiers lircd.conf qui sont déjà prêts. Ouvrons le site à l'instant. Et prenons par exemple le sous-répertoire consacré au fabricant Thomson. On voit qu'il y a un certain nombre de fichiers déjà prêts. Et j'attire votre attention donc sur le fichier que j'ai eu à récupérer sans avoir besoin d'un autre effort pour cette télécommande RCT311DA2. Le fichier existait déjà et était disponible. Ouvrons-le dans notre navigateur et regardons un petit peu à quoi il ressemble. Si l'on fait un peu exception des paramètres techniques en tête de fichier qui indiquent un petit peu combien de millisecondes durent les pauses, les espaces, quels sont les codes de répétition pour éviter de détecter plusieurs fois comme des appuis différents la même touche alors qu'en fait l'utilisateur ne fait que maintenir son doigt dessus, etc., etc. On voit très bien la structure assez simple à comprendre de ce fichier. À chaque touche qui ici a été étiquetée avec un label par exemple volume up ou volume down ou bien mute pour dire monter le volume, baisser le volume ou enfin couper le volume un instant, on voit très bien qu'une valeur numérique est associée. En l'occurrence en hexadécimal 0329 pour volume up, 032A pour volume down et 0305 pour mute. Donc c'est tout le travail ici de ce fichier, c'est de permettre à l'IRC-D, au daemon l'IRC, de revenir dans un monde logiciel à partir du moment où il écoute ce que lui dit le monde matériel, il écoute les impulsions, et il est capable de trouver la correspondance entre ces impulsions et leurs valeurs numériques grâce à ce fichier. Refermons le navigateur. Et maintenant, se pose la question, comment créer ce fichier ? Parce que c'est bien beau de se dire que j'ai eu la chance de le trouver tout fait pour la télécommande qui m'intéresse, mais il est possible que d'autres veuillent utiliser une télécommande qui malheureusement n'a pas encore été analysée par personne, ou alors qui a été analysée par quelqu'un qui n'a pas pris la peine de donner ce fichier au reste du monde. Alors, il faut utiliser un utilitaire qui s'appelle enregistrement de signaux infrarouges. En l'occurrence, son petit nom, c'est IR Record, Infrared Record, et dont la fonction est très simple, elle est donnée en titre du logiciel lorsqu'on le lance en commande en ligne. Ce programme va vous permettre d'enregistrer les signaux de votre télécommande et de créer un fichier de configuration, l'IRCD. En l'occurrence, il faut comprendre à ce point, à ce moment-là, la différence de niveau auquel on travaille. On est habitué, nous, en informatique, finalement, à très peu jouer avec le matériel. Il y a toujours des couches intermédiaires qui nous masquent le matériel, et finalement, on échange toujours des fichiers, du binaire, des valeurs numériques, enfin, on travaille sur des octets. Et qui dit travailler sur des octets, dit qu'il faut faire tourner l'IRCD, le daemon LIRC. Mais là, quand il s'agit d'analyser les signaux infrarouges bruts, avant même qu'ils aient été transformés en valeurs numériques, avant même qu'ils aient été transformés en octets, il ne faut surtout pas utiliser l'IRCD, parce que l'IRCD, justement, il ne va pas savoir. Il faut vraiment utiliser ce petit utilitaire d'enregistrement des signaux infrarouges, dont je parle ici, IR Record, le plus près possible du matériel. En l'occurrence, il est nécessaire d'arrêter l'IRCD, si jamais il était déjà en train de tourner sur votre distribution, ce qui est probablement le cas, pour permettre à IR Record de se greffer sur le port série, d'avoir l'exclusivité de son écoute et de capter les variations de signal électrique qu'il va traduire en valeur numérique. Donc j'ai symbolisé avec un petit écran qui dit attention, danger, tout simplement parce que si vous lancez, comme ça m'arrive de temps en temps, IR Record en oubliant d'éteindre l'IRCD, vous allez avoir une erreur qui va vous dire ben non, mais je ne peux pas accéder au matériel. Les commandes qui sont données là sont des commandes spécifiques à l'INES qui a fait le choix d'utiliser Runit pour gérer le lancement et l'arrêt des différents daemons. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser la commande SV stop pour arrêter ici le daemon LIRC, et qu'on utilisera dans un slide plus tard, un transparent plus tard, évidemment la commande SV start pour le remettre en route. Alors assez classiquement, et je vous montre dans un instant l'exemple que peut être de balayer, on balaye beaucoup hein, au cours de cette session, de balayer cette fois-ci non plus les chaînes de télévision, mais de balayer les codes infrarouges de la télécommande. Assez classiquement, l'IR Record va vous demander de presser des boutons. Alors pour quelques-uns d'entre nous qui ont acheté dans le temps des télécommandes universelles qui permettent donc de réunir sur un seul boîtier les fonctionnalités de plusieurs télécommandes éparpillées parmi autant d'appareils achetés au cours du temps. Certaines de ces télécommandes universelles cherchent à acquérir dans leur mémoire les codes infrarouges des différentes télécommandes existant dans le foyer. Et donc il est nécessaire de procéder à une étape d'apprentissage en appuyant sur la première touche de la télécommande d'origine, ce qui permet à la télécommande universelle d'enregistrer le code infrarouge, et puis d'appuyer sur la deuxième touche de la télécommande d'origine, ce qui permet de nouveau à la télécommande universelle d'enregistrer la deuxième touche, et ainsi de suite. On va procéder exactement de la même manière avec IR Record, à ceci près que ça n'est plus une télécommande universelle qui apprend les codes infrarouges, mais bien un ordinateur. Pour autant, le principe est le même. Et dans le déroulement des différents messages à l'écran que va nous adresser IR Record au fur et à mesure qu'on l'utilise, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est d'écouter, bouton après bouton, quels sont les codes infrarouges pour pouvoir créer le fichier LIRCD correspondant. Alors tout de suite, sans plus attendre, même si sur le slide il y a un petit extract, un petit résumé des différents messages que l'on peut recevoir de IR Record, voilà à quoi ressemble typiquement un dialogue avec IR Record. Commencez d'abord à presser, parce qu'au début il recherche tout simplement un petit peu quelles peuvent être les séquences de code basiques. Il ne s'agit même pas de reconnaître encore les valeurs numériques. Il s'agit avant toute chose de savoir un petit peu est-ce que c'est du RC5, est-ce que c'est autre chose, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on va être capable de détecter les valeurs numériques derrière, une fois qu'on aura compris les intervalles de temps de base. C'est la raison pour laquelle on nous dit longueur du signal 25, etc. trouver une queue d'impulsion à 495 millisecondes, etc. Et seulement quand ce travail préliminaire de détection du code de base est réalisé, on voit un petit peu en bas de la première page, la première feuille, entrer le nom du bouton sur lequel vous allez presser. Alors, quand on utilise une télécommande universelle, on n'entre pas le nom du bouton. On presse sur le bouton sur lequel on veut enregistrer la commande, et puis on presse sur le bouton de la télécommande d'origine dont on veut envoyer le code. Et là, c'est un petit peu différent. On indique quel est le label, quel est le nom du bouton dont on veut maintenant enregistrer le code infrarouge. Et on a repris ces trois exemples très simples. Augmenter le volume, donc qu'on va donner, par exemple, comme convention étant volume up. Baisser le volume, on va utiliser comme convention volume down. Et puis couper un instant le son, on va utiliser comme convention mute. Et à chaque fois, la démarche est la même. IR Record nous interroge sur le nom du bouton dont on va procéder à l'enregistrement du code infrarouge, et ensuite nous demande de maintenir appuyée la télécommande suffisamment longtemps pour qu'il détecte la valeur numérique transmise par l'impulsion infrarouge. Et on déroule ce mécanisme jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les boutons de la télécommande. Alors évidemment, bon, il faut avoir une certaine patience parce qu'une télécommande peut porter pas mal de boutons. Par exemple, la télécommande de Thomson dont je parle, non seulement elle a sa vingtaine de boutons comme tout bon appareil qui se respecte, mais évidemment, comme elle est capable de commander à la fois un DVD, un magnétoscope à bande et un téléviseur, chacun des boutons est multiplié par 3. Donc on peut s'amuser et en enregistrer vraiment beaucoup. Revenons à notre transparent. Et nous, on a bien compris maintenant comment on enregistrait un fichier lircd.conf si jamais il n'y avait pas de fichier préexistant disponible sur le site internet de l'IRC, comme on a essayé de le voir tout à l'heure. Là encore, nous allons faire quelque chose qui est assez spécifique à Myst TV et sur d'autres distributions il faudra procéder probablement qui est assez spécifique à l'INES et sur d'autres distributions il faudra probablement procéder différemment. L'INES a fait le choix d'installer les fichiers de configuration non pas directement dans les bons répertoires, notamment dans les répertoires d'application, dans les répertoires du démon LIRC, mais dans un répertoire intermédiaire de Myst Vantage qui lui permet justement à la volée de recopier lui-même, c'est donc l'interface graphique dont on parlait tout à l'heure qui va le faire, plus exactement bien entendu les scripts qui sont derrière l'interface graphique, de recopier lui-même les fichiers qui auront été placés dans ces répertoires Myst Vantage, de les recopier aux bons endroits à l'intérieur de la distribution, c'est-à-dire aux bons endroits dans le répertoire LIRC et dans le répertoire des différentes applications qui doivent être commandées par Infrarouge. Là encore, cette approche élimine beaucoup de complexité et de difficultés. L'utilisateur n'a plus à se préoccuper de savoir quelles sont les applications qui vont avoir besoin d'utiliser ces fichiers de configuration et de trouver exactement les bons chemins, les bons endroits. Il faut qu'il ait un réflexe. Il faut qu'il crée un sous-répertoire pour sa télécommande à l'intérieur de Myst Vantage / templates / remotes, et c'est suffisant. La création du répertoire provoque la reconnaissance de son contenu par l'interface graphique. C'est assez bien. Et par conséquent, permet à l'utilisateur de sélectionner dans l'interface graphique et dans ses menus déroulants la bonne télécommande. Donc c'est exactement à cet endroit-là, pour poursuivre cet exemple, on peut donc créer un sous-répertoire qui s'appellera Thomson underscore RCT311DA2, dans cette partie dédiée à Myst Vantage, et c'est dans ce sous-répertoire que l'on va placer notre fichier lircd.conf. C'est seulement maintenant qu'on va être capable, dans l'écran que je vous ai présenté l'instant d'avant, de sélectionner notre télécommande Thomson, voilà l'écran en question, notre télécommande Thomson comme étant la télécommande à utiliser. Et c'est une petite anecdote, mais si on a la bonne idée de glisser dans ce même répertoire un fichier JPEG, c'est ce fichier JPEG qui sera utilisé pour s'afficher comme preview, comme prévisualisation de la télécommande que nous souhaitons utiliser ici. Maintenant, il reste une petite étape qui peut être amusante avant le grand final. Cette petite étape, c'est de vérifier, une fois évidemment donc le LIRC le lire que d.conf, ce fichier a été installé au bon endroit. Cette petite étape, c'est de vérifier que les codes sont bien reconnus. Alors tout à l'heure, je disais, il est très important d'éteindre l'IRCD, le daemon, avant de lancer la détection des codes infrarouges, pour que justement IR Record puisse avoir pleinement accès au matériel, au port série en l'occurrence. Et évidemment, à partir du moment où maintenant on demande à l'IRCD de vérifier si le fichier de configuration ayant été correctement créé, il est bien capable de détecter les différents codes infrarouges au fur et à mesure de l'appui des boutons sur la télécommande, et bien dans ce cas-là, évidemment, on a besoin de relancer le daemon LIRCD, et c'est ce que je disais tout à l'heure, SV Start LIRC. Et la conséquence de tout ça est qu'un autre petit utilitaire, IRW, qui n'a vraiment pas d'autre fonction que de simplement sortir sur l'écran, sur la sortie standard, c'est-à-dire quand on est dans son shell, de faire s'afficher à l'écran du terminal, les codes numériques tels qu'ils lui sont transmis par l'IRCD. Et bien ce petit utilitaire IRW, nous allons l'utiliser, nous allons le lancer, et voilà ce qu'il affiche à l'écran. Il nous dit tout simplement que lorsque vous pressez sur volume up une fois, et bien il détecte le code numérique 329 en 0329 en hexadécimal, et puis il détecte la répétition, volume up qui est encore pressé une fois, ben oui, mais c'est l'incrément numéro 1, c'est toujours le code 0329 en hexadécimal. Et puis comme vraiment on insiste et qu'on a maintenu son doigt appuyé sur volume up, et bien c'est l'incrément numéro 2 et c'est toujours 0329. Puis un instant plus tard, on relâche. Et que détecte IRW? Eh bien il détecte par exemple volume down. Et cette fois-ci, la valeur numérique 0302. 0302 deux fois, 0302 trois fois, jusqu'à ce qu'on relâche le bouton. Et puis enfin, on essaye notre troisième bouton qu'on a pris pour le besoin de ce test, soin d'enregistrer, et il détecte la valeur numérique 0305, qui correspond au bouton mute. Cette étape n'est pas indispensable. Elle permet simplement de visualiser ce qui se passe dans la cuisine. Comment ça fonctionne ? Et là, on a bien l'explication que, à partir du moment où l'IRC Daemon fonctionne, écoute le port série, à partir du moment où on lui a fourni un bon fichier de configuration qui lui permet de faire la correspondance entre les impulsions et les valeurs numériques, eh bien, et les labels de touche, eh bien, il est capable de transmettre cette information au reste de l'univers applicatif qui peut être présent sur notre machine. Revenons au cours de nos slides, de nos transparents, et sautons à l'étape suivante. Toute petite aparté, une toute petite parenthèse pour vous dire de ne pas vous inquiéter si, à l'occasion de la fabrication par vous-même d'un fichier lircd.conf, c'est-à-dire de cette fameuse détection de la valeur numérique des séquences infrarouges, vous constatez qu'il y a des petites différences numériques. Vous faites l'opération deux fois, vous faites l'opération trois fois, et vous dites, ben c'est bon sang de bois, je retombe jamais sur mes pieds. Notamment les valeurs 1, 0, qui sont en fait tout simplement, quelles sont les impulsions, quelle est la forme des impulsions, combien dure l'impulsion, qui me permettent de comprendre que c'est un 0 ou que c'est un 1 qui est transmis. Ces valeurs-là fluctuent très légèrement d'un fichier fabriqué par IR Record à un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on exprime des valeurs en millisecondes, bon, très bien, selon qu'on utilise peut-être une télécommande ou qu'on utilise une autre télécommande, même si c'est la même marque, même si c'est le même modèle, les composants électroniques ont leur tolérance et donc les fronts d'attaque, les fronts de descente ne tombent pas exactement pile poil au même endroit. Mais vous comprenez bien, quand on a une valeur de 550 millisecondes, comme c'est indiqué ici dans l'exemple, ou bien une valeur de 492 millisecondes, grosso modo, on est dans l'ordre de grandeur de la tolérance de 10% couramment acceptée en électronique pour les composants grand public. Et par conséquent, voilà, on est aux alentours des 500 millisecondes, et ça suffit à l'IRCD pour détecter correctement la valeur numérique de l'impulsion infrarouge. Donc, ce petite parenthèse pour vous dire, ne pas vous inquiéter si vous obtenez d'un balayage de vos codes infrarouges à l'autre des petites différences numériques. Le principal, et là il ne faut pas transiger dessus, c'est que en ce qui concerne les touches elles-mêmes, on ne parle plus donc des valeurs de base, durée du 0, durée du 1 et que de la modulation, etc., etc. Mais en ce qui concerne les valeurs numériques elles-mêmes, quand vous appuyez sur une touche volume up, il faut bien entendu qu'il y ait toujours la même valeur numérique. Sur la télécommande dont je parle, la télécommande Thomson, que ce soit un modèle acheté en 2009 ou un modèle acheté en 2008, il faut toujours qu'en réponse à volume up, on ait la valeur hexadécimale 0,329. Si jamais il y avait une télécommande qui renvoyait autre chose, évidemment, on ne peut pas avoir deux codes pour un même bouton. Et le bouton ne serait pas correctement reconnu. La suite des opérations, et nous avons fini. La suite des opérations consiste donc à construire notre fichier LIRC-RC. Alors rappelons-nous ce que nous disions il y a un quart d'heure. Ce fichier LIRC-RC va avoir comme utilité de prévenir les différentes applications tournant sur notre MISBOX de l'action à réaliser lorsque telle touche est pressée. Alors, cette partie-là n'est pas forcément complètement triviale, parce que, contrairement à l'étape précédente où finalement il fallait faire un apprentissage de touche, cette partie-là, il faut se creuser un petit peu les méninges pour savoir, chaque implantation de touche étant différente d'une télécommande à une autre, pour savoir finalement, quand j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce que je veux que ça fasse avec Miss TV ? Et c'est particulièrement pas évident pour les gens qui utilisent Miss TV depuis peu de temps, parce que justement, ils n'ont pas exploré toutes les options, ils n'ont pas exploré toutes les possibilités. Et puis, pour explorer les possibilités, il faut une télécommande qui marche. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Notre conseil à ce propos-là, c'est d'utiliser l'un des fichiers de configuration LIRC-RC générique, qui est disponible sur le site mistv.org et qui permet d'avoir déjà une rédaction, une syntaxe pour la grande majorité des commandes qui sont utiles à MISTV et pour lequel finalement il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est à changer les labels de touches. Puisque lorsque la personne qui a préparé ce fichier générique à renseigner la correspondance entre le nom de la touche et le nom de la commande à faire exécuter par Miss TV, elle a utilisé des labels qui lui appartiennent à elle. Et toutes les télécommandes n'ont pas les mêmes touches. Et par conséquent, toutes les télécommandes n'ont pas les mêmes labels dans le fichier lirkd.conf que nous avons créé l'instant d'avant. Et c'est le seul travail finalement que vous ayez à faire. C'est-à-dire à passer en revue cet exemple de fichier de configuration LIRC-RC, de ne pas trop toucher aux différentes fonctions, en tout cas pas au démarrage, parce que après tout, ce sont des fonctions bien connues, bien balisées pour utiliser Miss TV tous les jours, et simplement de vous poser la question, pour chacune de ces fonctions, je veux l'activer avec quelle touche de ma télécommande ? Trouvez le nom de cette touche, telle que vous l'avez vous-même choisie dans le fichier lirkd.conf, et l'inscrire noir sur blanc dans le fichier de configuration LIRC-RC. Et nos aventures sont terminées. Terminées parce qu'il suffit simplement maintenant de glisser ce second fichier LIRC-RC dans le même répertoire que celui que je vous proposais de créer tout à l'heure. Donc en l'occurrence, c'est un cas particulier encore une fois. Nous utilisons ici l'INES. Donc dans ce répertoire Miss Vantage, et l'INES, avec les scripts qui en font la puissance, va ranger tout seul ce fichier LIRC-RC au bon emplacement dans l'arborescence traditionnelle des différentes applications qui doivent l'exploiter. Il y a encore un point technique à bien comprendre, c'est que dans un fichier LIRC-RC, on va faire la correspondance entre les touches de la télécommande et les actions à réaliser par une application. Mais ça peut être les actions à réaliser par une autre application, ou encore les actions à réaliser par une troisième application. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se limiter, dans un fichier LIRC-RC, aux à définir les actions pour une application. On peut définir celle de plusieurs applications. Et c'est ce que veut symboliser cet écran. C'est, je vois que l'un des auditeurs tombe à la renverse. C'est ce que veut symboliser cet écran, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de personnaliser autant de lIRC qu'il y a d'applications. Chers amis, nous arrêtons là pour la télécommande et maintenant nous entrons dans un autre champ passionnant qui est celui de la configuration de notre MiseBox de façon à la faire réagir comme un vrai magnétoscope en ce qui concerne la mise en veille et le réveil pour éviter qu'elle ne tourne 24 heures sur 24, qu'elle ne nous réveille la nuit, qu'elle puisse dormir, mais qu'elle sache également se réactiver lorsqu'il y a un enregistrement utile. Et sur ce point, je vous propose une petite pause.